France Musique. France Musique, les grands entretiens, Saskia Deville.
Je m'appelle Jérôme Pernaud, je suis violoncelliste, je suis né en 1972 à Nantes.
Jérôme Pernaud, nous avons évoqué hier ce professeur Vladimir Perlin, mais j'aimerais qu'on s'intéresse aujourd'hui à celle avec qui tout a commencé, votre véritable premier professeur, une certaine Germaine Fleury.
Bon, je lui dois tout à Germaine Fleury parce que c'était une femme d'une grande énergie incroyable. Elle avait 8 enfants, vous vous rendez compte. Et pourtant, tous ses élèves, elle déployait une énergie incroyable pour s'en occuper. Je l'ai rencontrée complètement par hasard. Heureux hasard parce que cette femme était très dévouée, très énergique, très enthousiaste. Bon, donc j'ai travaillé. Je me souviens que quand j'étais petit, mon jour préféré, c'était le mardi parce que c'était le cours de violoncelle. Voilà, c'était dans ce conservatoire de Saint-Germain-en-Laye, qui est une jolie petite maison. C'est rigolo parce qu'il y a 2 ou 3 ans, j'y suis retourné. Pour donner une masterclass. Alors, ça m'a fait une Madeleine de Proust, là, de revenir dans cette classe au Conservatoire de Saint-Germain. Et j'ai retrouvé tout d'un coup l'ambiance. Je suis allé dans la même salle où cette Madame Fleury retournait la poubelle pour que je m'assoie dessus parce que la chaise était trop grande, ouais, quand j'avais 5-6 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé du violoncelle, sur une poubelle. Grâce à Germaine Fleury.
Comment se déroulaient les cours avec Germaine Fleury, justement ?
C'était très simple, c'était joyeux. Je me souviens surtout d'un cahier de musique, vous savez, un cahier avec des portées sur lequel elle écrivait elle-même des petits exercices, où elle écrivait des morceaux, des fois, à vous dirais-je maman, ou des trucs comme ça au début. Puis après, je passais sur la méthode Feuillard, la méthode du jeune violoncelliste de Louis-René Feuillard, par laquelle beaucoup de violoncellistes sont passés.
C'était joyeux, c'était facile aussi pour vous ?
Ah oui, c'était des bons moments, c'était facile. Oui, j'ai le souvenir une fois d'une difficulté, du sang et des larmes sur mon violoncelle, c'est le passage de la position du pouce. La première fois que j'ai travaillé le pouce, elle m'a donné pour l'été, je me souviens très très bien, alors ça, hein, au mois de juin, après l'examen de fin d'année, elle me donne un morceau, c'était le 2e concerto de Rombert, dans lequel il y a de la position du pouce. Voilà, elle m'a expliqué comment ça marchait, puis alors là, tu vas voir, ça va te faire travailler ton pouce. Bon, ça fait tellement mal quand on appuie le pouce sur le côté, là, sur les cordes, parce qu'il faut bien appuyer pour que ça sonne. Hein. Un doigt, c'est pas fait pour appuyer sur le côté. Normalement, le pouce, c'est fait pour pousser sur la pulpe du doigt. Mais là, on est obligé de le mettre, pour des questions d'ergonomie de la main, sur le côté du doigt. Juste sur l'ongle, là, ça fait très mal. Je me souviens que ça saignait. Hein. Il y avait des traces de sang. Et puis, en plus, je pleurais. Donc, il y avait des traces de larmes. Donc, du sang et des larmes, vous voyez.
Et qu'est-ce qui vous faisait tenir à ce moment-là, dans ces exercices de torture?
Bah, je crois que c'était beaucoup, encore une fois, mon père. Mais t'inquiète pas, ça va passer. Allez, on y va, au travail. Hein, bon, il fallait être philosophe, quoi. Ça allait passer. Il faut, voilà, faut le temps que ça fasse de la corne. Et puis voilà, c'est plutôt la projection vers le futur qui fait, dans ce cas-là, qu'on peut.
C'est ça que j'allais dire, parce qu'on a un peu une, peut-être une vision un peu naïve, mais d'un violoncelle qui sonne tout seul, qui chante.
Ouh là là, non. Moi, j'ai le souvenir.
Mais c'est extrêmement difficile.
Oui, j'ai le souvenir de m'être dit que j'ai mis 4 ans à faire un truc convenable, écoutable, joli, où on puisse se faire un peu plaisir. Mais quand on est enfant, c'est pas tellement ça. On cherche pas à se faire plaisir avec le son. Enfin, en tout cas, moi, j'ai plutôt le souvenir de me faire plaisir à faire. On est dans l'action. C'est pas, je vais pas me faire plaisir. C'est, je suis en train de jouer ça. Enfin, bon, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est apprendre, c'est faire les choses, et puis le plaisir de les faire, c'est déjà un deuxième degré, et c'est venu plus tard.
Combien de temps avez-vous étudié avec Germaine Fleury ?
10 ans. Et je pense que 10 ans, c'est un bon début. Après, moi, j'ai rencontré Xavier Gagnepain. Ça a été des années d'apprentissage extraordinaires avec un prof qui a été mon mentor à ce moment-là au conservatoire de Boulogne. Alors, bon, quand vous avez 16-17 ans et que vous découvrez un Xavier Gagnepain, un prof qui sait tout sur tout, qui peut vraiment vous aiguiller sur la technique du violoncelle, sur le corps, sur la respiration, mais aussi sur la musique, sur la manière dont elle est écrite, sur... je me souviens, il se mettait au piano en disant, tu vois, là, Schubert, il a écrit ça, mais s'il n'avait pas été Schubert, il l'aurait écrit comme ça, puis il jouait un truc nul en dessous. Et alors, tout d'un coup, on voit comment, en fait, c'était génial. Bon, etc. Il a un pédagogue absolument fabuleux. Moi, j'étais en admiration devant lui, devant son savoir, devant tout ce qu'il pouvait m'apporter. Cette relation avec Xavier Gagnepain, ça a été un tournant dans ma vie de violoncelliste, notamment parce que il a su conjuguer, d'une part, mon amour de l'expression musicale, de la scène, de la musique, disons, l'amour de la musique, et d'autre part, mon amour du violoncelle, d'avoir un instrument à jouer, voilà. Donc il a réuni en quelque sorte technique et musique, pour aller vite. De cette synthèse est née une confiance énorme et une possibilité d'avancer facilement, en fait, dans mon parcours musical.
Troisième rencontre, Jérôme Pernaud, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Un autre professeur encore.
Oui, c'est Philippe Muller. Alors, c'était la classe, Philippe Müller. Hein, vous voyez, tous les violoncellistes de ma génération que vous connaissez, ils sont tous passés par Philippe
Anne
Müller.
Voilà, Anne Gastinel, hein. Xavier Phillips, Marc Oppé.
Oui, oui. Bon, c'était The Class. J'étais très honoré de rentrer dans cette classe. Et j'ai découvert, en fait, quelque chose d'étonnant avec Philippe Müller. C'est que, d'abord, c'est une grande humilité. Une immense humilité de professeur. Et surtout, avec Philippe Müller, on était face à quelqu'un qui nous apportait de la régularité dans le travail, de la rigueur, quelque chose de très cadré, laissant en même temps complètement les personnalités s'épanouir, c'est-à-dire ne rentrant pas dans cette question-là tellement. Pour avoir discuté avec lui après, finalement, quand j'ai été nommé prof au conservatoire, et qu'il était encore, lui, prof au conservatoire, il me décrivait, pour lui, le rôle de prof comme un tuteur, mais un tuteur de tomates. Je veux dire, pas un mentor, un tuteur, quelqu'un qui fait en sorte que ça pousse. Et puis, il me disait, moi, mon rôle, c'est d'arroser toutes les semaines, quoi. Voilà. Donc c'est très humble et c'est merveilleux et c'est régulier. Alors là, s'il y a quelque chose qu'il m'a appris pour ce qui est de la pédagogie et qui me sert toujours aujourd'hui, c'est la régularité.
Entretien de Jérôme Pernon.
Moi, j'aimerais quand même qu'on revienne sur cette grande tradition française du violoncelle dont on parle tant. Il y a eu effectivement des pédagogues d'exception dans l'histoire de la musique française. André Navarra, Maurice Gendron, on pense aussi à Paul Tortelier, Pierre Fournier, etc. Mais vous faites partie, vous, Jérôme Pernon, de cette première génération à avoir finalement tourné le regard vers l'étranger, on peut dire ça comme ça aussi ?
Oui, le regard vers l'étranger est naturel, en fait, pour notre génération. Encore plus pour celle qui est maintenant au conservatoire. C'est-à-dire que, tout le monde est sur YouTube en train de regarder des versions de tout le monde. Donc, en fait, il y a une espèce de chose qui se mixe entre toutes les influences. Et on espère qu'on prend le meilleur de chaque. Voilà. J'ai toujours vu d'une manière suspecte cette histoire d'école. Parce que c'est un enfermement, en réalité, une école. Et j'ai pas envie d'être l'homme d'un seul livre. Et donc, je pense que c'est extrêmement important. Et Müller m'a beaucoup apporté là-dessus aussi. Philippe Müller, donc au conservatoire, puisque lui était un élève de Navarra, mais il avait travaillé avec Rostrow. Et puis, en fait, il était œcuménique. Et donc, déjà, ça apportait cette ouverture. Il n'y avait pas une manière de faire. Ensuite, on s'aperçoit, justement, en regardant les uns et les autres, vers l'étranger, vers la Russie, vers l'Allemagne. Combien de grands violoncellistes allemands de ma génération sont sortis. Ça nous a permis aussi de voir qu'on pouvait jouer très bien et de manière différente. Techniquement, je veux dire, les techniques peuvent changer d'un pays à l'autre. On tient pas son archet pareil en Russie que en Allemagne. Bon, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Qu'est-ce que vous en avez à faire en écoutant de la musique ? Donc ça remet beaucoup en question l'enseignement même. Parce qu'il n'y a pas une manière. Et en même temps, quand on a soi-même une manière de faire, on a beaucoup de mal à se dire que ça peut être autrement. Donc ça nécessite là aussi une grande liberté intérieure pour se dire que ça peut être différent. Ou différent de ce qu'on nous a appris. Je suis pas le seul, hein. C'est pareil pour Marc Oppé ou Raphaël Bidou, qui sont mes collègues au conservatoire, ou Michel Strauss, qui était lui aussi prof pendant que j'étais au conservatoire. C'est quelqu'un aussi de très ouvert à d'autres techniques, d'autres manières de jouer. Alors lui, peut-être plus tourné vers les États-Unis. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, au conservatoire, on n'est plus dans cette question d'école. Alors, en effet, on a le regard très ouvert sur l'étranger, mais les étrangers aussi ont vraiment un regard sur nous.
Et ce serait ça ma question, que viennent chercher les étudiants étrangers à Paris aujourd'hui, au conservatoire de Paris ?
Peut-être qu'on fait un peu plus travailler le répertoire français qu'ailleurs, mais je suis même pas sûr, parce que... Bon, j'adore le répertoire français, mais j'adore la musique surtout. Et moi-même, j'ai appris la musique avec Bach, Beethoven, Mozart, qui sont pas spécialement français. Bon, alors c'est vrai que quand je fais un cours sur la sonate de Poulenc ou sur la sonate de Debussy, j'ai un peu le sentiment de leur faire découvrir quelque chose qu'ils savent pas forcément, ou qu'ils ont l'impression de se dire ouais, c'est vraiment là qu'il faut, parce que
on est à la source.
Ouais. Mais en même temps, je pense que beaucoup de violoncellistes allemands ou russes peuvent très très bien enseigner Debussy et Poulenc sans aucun problème. Après, c'est la question, c'est comment on incarne une œuvre. Alors moi, quand je joue du Rachmaninov, je deviens russe. Si je joue la sonate de Barber, je vais devenir américain. C'est surtout ça que je veux enseigner, moi. C'est pas comment être français et jouer français, hein, parce que je suis français. C'est pas ça qui m'intéresse. Encore une fois, c'est pas mon histoire qui m'intéresse dans l'art de l'interprétation. C'est le contraire. Quand on interprète, on devient quelqu'un d'autre. Si interpréter, c'est incarner, quand j'incarne une suite de Bach, je suis une suite de Bach. Je deviens une suite de Bach. C'est-à-dire, entre parenthèses, ni français ni allemand, mais plutôt tout à la fois. C'est ce qu'on appelait à l'époque les goûts réunis.
Vous avez été lauréat d'importants concours internationaux, je pense au concours Rostropovitch, au concours de Pretoria ou encore au concours Tchaïkovski à Moscou. Vous êtes arrivé en finale. Jérôme Pernoud, vous participez encore à des concours aujourd'hui, mais cette fois en tant que membre du jury. C'est un exercice qui vous plaît ?
Je déteste ça. Oui, ça, bien sûr, je suis invité dans des jurys de concours internationaux maintenant. Mais vraiment, ce n'est pas du tout mon rôle de juger les gens. Je suis pas là pour ça. Moi, c'est pas pour ça que je fais ce métier. Je suis là pour les accompagner, pour les aider à jouer mieux, pour aller au fond de ce qu'ils veulent faire, pour les aider à réaliser leurs rêves, les aider à s'insérer dans le monde professionnel, ce qui est pas facile.
Après, et comment vous l'avez vécu, vous, quand vous étiez plus jeune et que vous y participiez, Jérôme?
À Moscou, ça n'a pas été facile, parce que franchement, avec tout ce qu'on s'était donné, tout ce comme énergie, etc., le président du jury qui arrive et qui dit « il n'y aura pas de premier prix, et puis il n'y aura pas de deuxième prix, et puis il n'y aura pas de troisième prix non plus ». Et là, on a cru qu'il allait dire « non, maintenant je blague, alors, en fait je recommence, premier prix Jérôme Pernoud ». Non, pas du tout. pas de quatrième prix. Non. Quatrième prix, c'était deux ex aequo, puis pas de cinquième prix. Parce qu'il y avait deux ex aequo. Et en fait, on s'est aperçu plus tard que c'est parce qu'ils n'avaient plus de sponsors cette année-là et que donc ils ont donné aucun prix.
C'est vrai ?
Oui. Bon, c'était un gros scandale. Mais bon, on s'est retrouvé lauréat du concours parce que finaliste. Mais enfin bon, c'était un peu fort de café à avaler, hein, après le travail que ça demande, l'investissement. Puis alors bon, en plus, il y a toute la ferveur à Moscou pour ce concours, les gens qui sont d'accord, qui sont pas d'accord. Il y a les journaux aussi, il y a des articles dans les journaux, tout ça. Mais il y avait cette ferveur, il y avait cette participation. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré le prof de Minsk. C'est quelques années plus tard, 4 ans plus tard, je fais une tournée, je me retrouve à Minsk, le chef d'orchestre me dit « va au collège musical, il y a un type qui est formidable, que tu devrais rencontrer ». Et là, je rencontre ce Vladimir Perlin qui m'accueille devant plein de monde, un public. Et le public me pose des questions, me demande de jouer telle ou telle chose. Bon, je m'attendais pas du tout à ça, à cette réception. Et petit à petit, dans les questions du public, j'ai compris. Ils m'avaient entendu au concours de Tchaïkovski 4 ans avant. Et pour eux, ils suivent ça comme la Coupe du Monde de foot, quoi, le concours de Tchaïkovski. Donc, ils se souvenaient exactement de ce que j'avais joué, à quel tour, à quel moment du concours, etc. Et alors voilà, tout à coup, j'étais Zidane, quoi. Pendant un jour, j'étais Zidane. Bon, il y avait cette ferveur, voilà, j'ai retrouvé cette ferveur-là.
Pouvoir goûter à cette ferveur, c'était peut-être ça, finalement, votre récompense ?
Alors, il se trouve que le lendemain des résultats, je devais aller à La Rochelle pour jouer à Régine Chopinot les 6 suites de Bach pour qu'elle m'engage pour faire son spectacle sur les suites de Bach.
La chorégraphe, donc.
Voilà, la chorégraphe Régine Chopinot. Et donc, il se trouve que pendant que j'entendais dans la chambre d'hôtel autour de moi les autres travailler pour leur finale, en fait, moi, je travaillais les suites de Bach alors que c'est pas ce que j'avais à jouer pour la finale pour pouvoir lui jouer. Elle voulait que je joue les 6 d'affilée quand même, hein, pour décider si elle me prenait. Elle m'a pris. C'était ça ma réussite en réalité. Parce que ça m'a apporté 40 intégrales des suites de Bach en 2 ans, ce qui pour un jeune violoncelliste est complètement inespéré.
Sébastien Bach, Régine Chopinot et ses danseurs, ça a dû être un moment incroyable à vivre pour le tout jeune violoncelliste que vous étiez, avec des moments inattendus certainement. Auriez-vous un souvenir à partager de cette tournée ?
Je finissais la première partie du spectacle avec une suite de Bach et je suis sorti de scène avec les danseurs. Mais vous savez, les danseurs, ils courent quand ils sortent de scène. Donc j'ai voulu faire le malin, courir avec eux. Je me suis cassé la gueule et j'ai fait tomber mon violoncelle. Je suis tombé dessus. Et donc je l'ai cassé en 1000 morceaux. C'était un drame absolu, un tabou énorme. Et le tabou, ça a été surtout de ne pas pouvoir finir le concert. Ça a été incroyable. J'ai réalisé à quel point on est conditionné quand on commence la première note d'un concert. On doit aller jusqu'à la dernière. Et là, j'avais plus de violoncelle. J'étais prêt même à chanter pour finir le concert. Mais bon, j'ai essayé de chanter un peu, puis tout le monde a éclaté de rire, donc j'ai arrêté.
Thank you. Cavotte 1 et 2 de la 6e suite pour violoncelle de Bach. C'est avec ceci que se referme ce 3e épisode des Grands Entretiens avec Jérôme Pernaud. Réalisation Christine Amado, prise de son Sébastien Royer, mixage Claude Niort, attaché de production Flora Sternadel. Et puis ces Grands Entretiens sont bien évidemment disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.